point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, l'Académie des sciences morales et politiques, conjointement avec Radio France, vient d'organiser une conférence débat sur le thème « La liberté de la presse, paradoxe français et l'éthique de l'information ». Cette conférence était donnée par M. Henri Pijat, ancien président de l'agence France Presse, président du Centre de formation des journalistes, président de l'International Institute of Communication. L'Académie des sciences morales et politiques entendait ainsi souligner la publication des trois rapports du groupe de travail présidé par M. Jacques Leprêtre, membre de l'Académie, sous la direction de Henri Pijat, ayant pour objet d'étude la presse en France et dans le monde. Trois rapports publiés par les PUF, Presse universitaire de France, dans la collection Les cahiers de l'Académie des sciences morales et politiques. Ce travail, destiné à alimenter la réflexion éthique concernant le journalisme, ne pouvait manquer d'intéresser Radio France, une maison où la presse et l'information constituent l'essentiel du quotidien. Une maison toute ronde, comme vous savez, où l'on croise non seulement des journalistes français, mais où l'on rencontre aussi, au CAP, c'est-à-dire au Centre d'accueil de la presse étrangère, de nombreux journalistes étrangers en résidence ou de passage en France. Le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, M. Jean Cluzel, remerciant M. Olivier Caplin, directeur conseiller du président de Radio France pour la politique culturelle, a d'abord souligné les liens profonds entre l'information et la démocratie.
La presse est un peu la chienne de garde de la démocratie, parce qu'il y a entre l'information et la démocratie des liens qui sont consubstantiels. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable que le journaliste délivre une information qui soit objective, autant que faire se peut, qui soit honnête et qui soit indépendante. Lorsqu'il m'arrive de lire dans la presse que tel ou tel journaliste, surtout à la télévision, n'a pas été confirmé dans son rôle, parce que elle ou il avait une connotation de droite ou elle ou il avait une connotation de gauche, j'avoue que, monsieur le directeur, je ne comprends pas. J'avoue que, comme ancien parlementaire et comme citoyen toujours, ça me fait mal. Parce que un journaliste a parfaitement le droit, comme chaque citoyen, d'avoir ses idées politiques, certes, et ses choix, certes. Simplement, lorsque il s'exprime, elle ou il s'exprime en journaliste, il faut évidemment respecter l'auditeur, le téléspectateur ou le lecteur, le respecter dans ses idées propres. Donc, j'en termine par là. Objectivité, honnêteté, indépendance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons confié à Henri Pijat, à l'Académie, le soin de réfléchir à ces questions et de signer ce rapport extrêmement important avec une équipe dont il va vous indiquer les noms des principaux, des principales personnes, de façon à nous poser le problème, comment le journalisme peut-il concourir à une opinion publique éclairée et libre dans ses choix, et faut-il mettre en place une éthique professionnelle.
Écoutons la réponse d'Henri Pijat.
Monsieur Cluzel vient de faire le lien de façon forte entre information et démocratie. Alors, en effet, c'est ça la toile de fond. Pourquoi s'est-on intéressé aux sujets qui font l'objet des ouvrages que vous avez évoqués ? Parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu tout bête, historiquement bien connu. Il n'y a pas de démocratie sans presse libre, sans presse responsable. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si les médias, tels qu'ils sont devenus, nous sommes la société de l'information, ça doit vouloir dire quelque chose, continuent à assumer cette fonction. Et ça n'est pas tout à fait par hasard si les deux derniers volumes publiés que vous avez cités sont consacrés l'un à la liberté, en termes, d'ailleurs en soulignant la situation particulière française. On a parlé de paradoxe, j'y reviendrai dans quelques secondes. Et d'autre part, la qualité de l'information, qui est un thème moins connu, mais dont l'actualité, en effet, vous avez raison de l'avoir rappelé, souligne que ça n'est peut-être pas un thème secondaire. Alors, les deux choses sont liées. Je crois que pendant longtemps, la liberté de l'information a été le combat prioritaire. Ça a été une longue conquête, je ne vais pas refaire l'histoire. On sait tous que le 19e siècle, français, européen, d'une certaine façon démocratique dans le monde, a été celui de la conquête de cette liberté. Jusqu'à une époque encore récente, que la plupart d'entre nous ont vécu très directement, le conflit Est-Ouest, la confrontation Est-Ouest, faisait qu'il y avait deux conceptions de la liberté de la presse dans le monde. Une conception, je dirais, normale, la nôtre, et une conception dirigée, la conception soviétique, dans laquelle la liberté de la presse consistait à être conforme au code, au canon, de l'idéologie dominante dans les pays qui étaient régis par ce système. Et puis le débat s'arrêtait là. Et depuis quelques années, et je parle en tant que praticien d'un certain nombre d'organisations professionnelles internationales, depuis quelques années, on voit apparaître un autre débat qui est celui que l'on met sous le terme de qualité de l'information, faute peut-être d'ailleurs d'avoir une meilleure définition. Qualité de l'information, j'essaierai de définir un peu tout à l'heure ce que c'est, mais c'est quelque chose d'assez varié. On pourrait dire aussi la fiabilité de l'information, on pourrait dire sa crédibilité, on pourrait dire son sérieux. Et alors, pourquoi cette jonction ? Peut-être au fond parce qu'il y a deux risques qui menacent toujours la liberté d'expression. Il y a des risques, enfin deux catégories de risques. Il y a une catégorie de risques extérieurs. Ce sont les ingérences, c'est un terme juridique qu'on retrouve dans beaucoup de textes, les ingérences des divers pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir corporatif, il y en a de toutes sortes, qui voudraient orienter l'expression des médias et des journalistes dans un certain sens. Mais il y a un autre phénomène qui est un phénomène de menaces internes, de risques internes, que l'on voit très bien fleurir depuis quelques années ou une ou deux décennies, et qui peuvent conduire à l'autodestruction de l'information, c'est-à-dire à sa perte de sérieux, à sa perte de qualité. Et ceci est une vraie question, car à partir du moment où l'information n'apparaîtrait plus comme une valeur suffisamment universelle et une valeur suprême, suffisamment suprême, si j'ose dire, pour qu'elle soit défendue à tous égards, pourquoi bénéficierait-elle d'un certain nombre de garanties, voire de privilèges, et qui sont la règle dans toutes les démocraties du monde. Jean Cluzel évoquait tout à l'heure cette expression très américaine, le chien de garde de la démocratie, que doit constituer le journaliste, c'est-à-dire faire en sorte que les activités publiques, ou les activités tout court, de la société restent transparentes, faire en sorte que chacun puisse avoir son opinion, faire son jugement, et décider en tant que citoyen libre. Cette faculté, elle peut être menacée de l'extérieur, elle peut être menacée de l'intérieur. Ça, c'est une première remarque que je voudrais faire. Deuxième remarque, et qui vous explique pourquoi nous avons choisi ces thèmes. Une petite remarque méthodologique, Jean Cluzel y a fait allusion aussi. Ce travail est le résultat de très nombreuses consultations, échanges, etc., dans un groupe de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, était présidé par Jacques Leprêtre, ambassadeur de France, qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé, ce groupe a eu plusieurs rapporteurs. Nous avons ici Martin Ostrovski, maître Martin Ostrovski, qui est un membre du barreau et qui a occupé des fonctions de responsabilité juridique dans de nombreux établissements de presse, qui est maintenant plus enseignante que plaideur. Nous avons eu quelqu'un qui a été assez proche de cette maison, Jean-Charles Paracuellos, sur les sujets économiques. C'était le premier rapport. Et nous avons eu, hélas, il n'est plus parmi nous, puisqu'il nous a quittés l'été dernier, un très grand professionnel de la presse que plusieurs membres de l'assistance, j'imagine, ont connu, qui était Jean Huteau, qui a été un de mes adjoints à l'AFP durant de nombreuses années et qui nous a accompagnés dans ce travail pendant de longs mois et on peut dire pratiquement tant qu'il a eu un souffle de vie et il a eu le privilège de garder un esprit, un dynamisme entier jusqu'à sa fin. Je reviens au fond de la question pour une deuxième remarque qui qui est de poser un peu un paradoxe. Nous sommes dans ce qu'on appelle la société de l'information. Chacun se rappelle au moment que cette expression est née au moment de l'Internet, vers les années 95-96, et chacun se rappelle les déclarations lyriques que ce phénomène a suscité. Le savoir allait être disponible pour tout un chacun, on allait effacer les inégalités d'accès à la connaissance, chacun pourrait s'exprimer librement, etc., etc. On avait dit grosso modo la même chose au moment de l'apparition de l'électricité, au moment de l'apparition de la machine à vapeur et de quelques autres grands événements techniques. On avait dit aussi le contraire. Un certain nombre d'observateurs tout aussi pertinents avaient dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être épouvantable, ça va être la fin de la fin, la catastrophe, la pagaille universelle. » Ça n'a été ni l'un ni l'autre. On est entre les deux. Et on peut dire que tous ces nouveaux médias sont encore dans leur période de jeunesse. Mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, et par rapport à notre centre d'intérêt ici, c'est que ces découvertes techniques ont apporté bien sûr des possibilités d'expression et de communication nouvelles et considérables. En termes d'espace, en termes de volume, on peut dire qu'il y a l'information de rareté avant les années, disons, 80, et l'information de pléthore, à partir des années 75-80, pléthore de réseaux de communication. Je ne voudrais pas jouer les ancêtres, mais j'ai connu une époque où les agences de presse et quelques grandes radios et télévisions étaient les seules à pouvoir acheminer des nouvelles à travers les océans, à travers les continents. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, avec le téléphone portable qu'il a dans sa poche, peut non seulement recueillir des informations qui viennent des antipodes, mais en envoyer s'il en a envie bien. Donc, beaucoup d'aspects positifs à ces nouvelles techniques. Arrivée de l'image, avec toute sa richesse, arrivée de la radio qui nous suit tel le petit chien, qui ne nous quitte pas, qui nous permet d'être connectés en permanence, etc. Mais il y a aussi l'autre face de ces applications des nouvelles techniques. Et l'autre face comprend les risques. Et je serais tenté de dire, c'est ma seconde observation pour poser le sujet, que nous sommes peut-être à la période qui est la plus difficile pour le journalisme. Je crois sincèrement qu'il est plus difficile de faire du journalisme aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Ça peut vous paraître paradoxal. Les plus anciens de cette salle se rappellent sans doute, ceux qui ont pratiqué ce métier, la difficulté qu'il y avait à trouver une cabine téléphonique parce qu'on avait une information, qu'on voulait la passer et qu'on ne savait pas. Je dirais que la situation inverse pose aussi beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Très succinctement. Il n'y a plus de délai. Il faut réagir immédiatement. L'information se fait en direct. Est-ce encore de l'information ou simplement de la mise en scène ? Dans le malheureux incident qui a affecté nos confrères de France 2 il y a quelques jours ou quelques semaines, quelles étaient les données si on dépouille les aspects un peu psychosociaux et émotifs ? Une concurrence exacerbée, et il fallait être aussi bien que la chaîne concurrente qui avait le personnage qui avait quelque chose à dire, le président de l'UMP en l'occurrence, fallait donc faire aussi vite. Il n'y avait aucune limite technique, aucun recul, c'est ce que l'on appelle travailler sans filet. Dans la majorité des cas, ça marche à peu près. Pardon de dire cela, mais ça marche. Il y a aussi un certain nombre de cas où l'acrobate tombe, le trapéziste tombe, et s'il n'y a pas de filet, on sait ce qu'il arrive. C'est ce qui est arrivé. Alors là, nous avons un phénomène qui appelle réflexion, c'est-à-dire que les limites, les garanties qui étaient données par les freins techniques d'autrefois et qui nous garantissaient à nous, professionnels, de ne pas faire trop de bêtises, parce qu'on était bien obligés de réfléchir, le temps de trouver un téléphone, le temps de passer une information, le temps de la rédiger, toutes ces barrières ont disparu. Il y a un autre aspect, à titre d'exemple, je ne vais pas faire un long exposé, l'image. On dit l'image, c'est fabuleux. Et en effet, est-ce qu'il y a une vérité plus grande que de montrer un personnage public, quel qu'il soit, que ce soit un personnage public pour des raisons professionnelles ou public par l'actualité, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus vrai que de montrer ses réactions à l'écran, en gros plan, en direct ou pas en direct ? En même temps, est-ce que l'on peut considérer que l'image suffit à informer ? Je n'en suis pas du tout persuadé. Je crois que l'image est un élément parmi d'autres de l'information, comme la voix, comme le texte, mais que l'image est un ami dangereux. Elle donne l'illusion de tout faire, de tout savoir. Or, l'image, surtout telle qu'elle est exploitée encore aujourd'hui par les télévisions généralistes, et c'est un fait, c'est pas, mon appréciation n'est pas morale, mais la télévision est dominée par les télévisions généralistes. C'est encore un média jeune, immature, qui n'a pas atteint la variété de la presse écrite. Et cette image telle que nous l'avons, en forme de robinet continu, est finalement très sommaire. Elle joue sur l'émotion, plus que sur la réflexion. Elle joue sur le choc, plus que sur l'analyse. Elle joue sur le spectacle, sur l'attrait, sur la séduction, plus que sur la réflexion. Alors face à cela, que faire? Eh bien, si je me permettais de dire il y a deux minutes que nous vivons en matière de journalisme une période sans doute plus dangereuse que celle du passé, cela tient à tout ça. On pourrait ajouter d'autres considérations, les considérations économiques. Je suis de ceux qui sont convaincus que la liberté d'entreprise est une des garanties essentielles de la liberté de la presse.
Après avoir souligné les progrès apportés par les techniques et les risques inhérents à celles-ci, Henri Pigeat a rappelé la spécificité française. La liberté est définie par la loi, c'est l'État qui dit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Dans la plupart des grandes démocraties, une place est accordée au débat, à l'échange avec les lecteurs ou les spectateurs, à des organismes de réflexion, à des procédures professionnelles de régulation. La France, en ce domaine, connaît un certain retard, malgré quelques initiatives récentes. Après une courte pause musicale, nous retrouverons Henri Pigeat et le témoignage particulièrement intéressant de Geneviève Guichenet, médiatrice à France 2.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie.
Henri Pigeat, évoquant les réflexions du groupe de travail de l'Académie des sciences morales et politiques consacré à la liberté et à l'éthique de l'information, a poursuivi sa conférence en soulignant qu'il n'y a pas en France d'organisme de déontologie pour la presse, mais que l'on voit se mettre en place dans les radios, dans les télévisions, des essais de dialogue avec les auditeurs et les spectateurs, notamment par l'installation de médiateurs. Geneviève Guichenet, médiatrice pour la chaîne de télévision France 2, présente dans la salle, est alors intervenue.
Alors, les médiateurs dont je suis sont très bien accueillis, et je pense qu'à Radio France c'est la même chose avec le médiateur, sont très bien accueillis par les téléspectateurs et les auditeurs. Ils ont l'impression qu'il y a là un espace où on leur donne la parole, ce qui est pour eux un signe de bonne volonté et d'honnêteté intellectuelle de la part des médias qui les ont. C'est loin d'être parfait, nous en sommes parfaitement conscients, mais en tout cas, moi j'ai l'impression de vider la mer avec une petite cuillère, je m'empresse de le dire. Il y a parfois peu d'écho, mais il n'empêche qu'il y a là, dans les moments de crise, hein, on l'a vu avec l'affaire Fogiel Dieudonné pour ce qui me concerne dans les programmes, là tout d'un coup on se dit c'est le seul endroit où ça va pouvoir se régler. Et la BBC, j'en ai discuté avec un certain nombre de confrères là-bas, était bien embêtée de ne pas en avoir un. Et d'ailleurs, on lui a suggéré à ce moment-là, elle aurait eu un médiateur, peut-être aurait-elle pu régler le problème autrement. En tout cas, elle se pose la question. Le New York Times, même lui, après l'affaire Jason Blair, a nommé un médiateur. Mais ils ont une telle passion pour ce genre d'exercice que le directeur du New York Times vient de faire un édito contre l'édito du médiateur. Mais bon, voilà, il y a là, on crée un espace. Ce qui me paraît, moi, personnellement, et je terminerai là-dessus, ce qui me paraît poser un problème aux médias, c'est précisément la façon dont l'époque influe sur des choses qui paraissent, pour les journalistes, indépassables, non négociables. C'est-à-dire, en effet, le temps de faire les enquêtes, la rigueur de l'information, la garantie que, où l'on peut-être que ce que l'on dit, on n'a peut-être pas tout dit, parce qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas prétendre tout savoir, mais qu'en tout cas, ce que l'on dit, on en est sûr et on l'a vérifié.
Henri Pigeat a rebondi sur ces questions en des termes interrogatifs.
La question que l'on peut se poser aujourd'hui par rapport à ce que sont les médias, c'est est-ce que ce schéma, disons en gros bâti à l'époque des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, pour une élite, mais que l'on a eu l'espoir et sur lequel on a formé un rêve, c'est de généraliser ce qui était bâti pour une élite, éclairée, sachant lire, ayant accès à des revues, à des livres, etc., soit généralisé à l'ensemble de la population. Et ça, ça a été le rêve et l'espoir de l'école généralisée, etc. Et la question que moi je me pose beaucoup et qui rejoint les quelques explorations que nous avons faites là, c'est est-ce que les médias modernes, et en particulier les médias audiovisuels, ou la presse écrite telle qu'elle évolue dans ce nouveau contexte, et en partie par effet de contagion des médias modernes, des médias audiovisuels et des médias interactifs, est-ce que les médias d'aujourd'hui contribuent de la même façon à la formation de l'opinion ? Autrement dit, est-ce qu'ils aident chacun à comprendre, à réfléchir, à analyser, ou est-ce qu'ils diffusent beaucoup plus une sorte de vulgate ? Et on peut se poser sérieusement la question, et là ça dépasse, si on prend la télévision, ça dépasse largement les journaux télévisés, ce sont tous les programmes qu'il faut intégrer. Est-ce que les médias nous conduisent vers une sorte de conditionnement ? Il y a des modes, il y a des fièvres, il y a des parlottes, pas toujours sur les grands sujets. Monsieur tout à l'heure disait que la presse ne distingue peut-être pas les bons sujets et les mauvais. Moi, je n'entrerai pas dans ce débat-là parce que je me méfie toujours de la presse, de la mission éducative de la presse, n'est-ce pas ? Je crois que c'est la liberté et la liberté dans le pluralisme qui donne une forme de vérité que chacun va construire pour lui-même. Mais j'avoue, me poser la question, je ne suis plus tout à fait certain que les médias actuels aident à développer l'esprit critique, aident à développer la réflexion et le jugement. Je ne vois rien qui incite au pessimisme, je dis simplement que nous traversons une période de mutation assez profonde. Je pense qu'on sait qu'il y a dans l'histoire et dans les sociétés de grandes césures. Là, nous sommes en train, je dirais, d'intégrer les conséquences des novations techniques des 40 dernières années qui vont de la fin de l'électricité à toute l'électronique et qui ont totalement bouleversé le système de l'information, qui ont remplacé, on va pas recommencer, mais la rareté par la pléthore, la facilité, la difficulté par la facilité, etc. Donc ça oblige un peu plus de réflexion, un peu plus de discipline et un peu plus d'invention. C'est la modeste pierre, les trois petites pierres modestes que nous avons voulu apporter à ce débat.
Je rappelle les titres de chacun des ouvrages composant les travaux du groupe de l'Académie des sciences morales et politiques consacré à l'information, groupe dirigé par Jacques Leprêtre et Henri Pijat. Premier volume, Tendances économiques de la presse quotidienne dans le monde. Deuxième volume, Liberté de la presse, le paradoxe français. Troisième volume, Éthique et qualité de l'information. Ces trois volumes sont publiés dans la collection Cahiers des sciences morales et politiques par les éditions PUF, Presse universitaire de France. Merci de votre écoute et à bientôt.